Laval est donc ordonné prêtre.
Oui, à 25 ans, puis 10 ans plus tard, il est nommé évêque. À 35 ans, très jeune évêque. Hein. Il est nommé évêque, et puis le 8 décembre 1658, le nonce, c'est-à-dire l'ambassadeur, si on peut dire, du Vatican en France, Piccolomini, l'a sacré à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. Beaucoup de gens qui vont à Paris vont à Saint-Germain-des-Prés, et cette église est toujours là. Et c'est dans cette église que François de Laval a été consacré évêque. Et le 13 avril 1659, eh bien, Monseigneur de Laval s'embarquait à La Rochelle, en France, avec le père Jérôme Lallemand, un jésuite, son vicaire général. Et il arriva à Québec le 16 juin suivant. Mai, juin, ça a pris 2 mois, ce voyage. Il amenait des abbés avec lui, des prêtres, et un séminariste, Henri de Bernière, qui a été, ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent, il y a des rues de Bernière ici au Québec, c'est d'après ce jeune homme qui fut ordonné prêtre, le premier prêtre au Canada, l'abbé de Bernière. Alors, au début, dans son ministère comme évêque, il est très, très pauvre. Cet homme qui vient d'une certaine aisance vit très pauvrement et ne s'en plaint absolument pas. Il n'y a pas tellement de monde à l'époque. Hein. Il y a 16 jésuites, 10 prêtres séculiers dans toute la colonie. Hein. Et de ces derniers, les prêtres séculiers, 6 sont à Québec, 4 à Ville-Marie. Ils sont tous dépourvus de revenus. Ils n'ont aucun revenu. Ils vivent dans vraiment une grande pauvreté. Et ils ne reçoivent aucune rémunération pour leur ministère. Ils vivent des aumônes qui viennent de France. En plus de ça, ben, il y a des Ursulines qui sont 16. Il y a 15 hospitalières qui ont soin des malades à Québec. Pendant qu'à Ville-Marie, ben, il y a seulement 3 religieuses de Saint-Joseph. Les sœurs des religieuses de Saint-Joseph, c'est celles qui s'occupent à Montréal de l'Hôtel-Dieu. Elles sont devenues beaucoup plus nombreuses avec le temps. Et elle venait de La Flèche, en France. Et puis, elle travaille donc dans l'hôpital que Jeanne Mance a fondé. Et puis, il y a aussi Sœur Marguerite Bourgeois, qui est devenue Sainte Marguerite Bourgeois, qui, elle, se dévoue à l'instruction de quelques jeunes filles. Et puis, en somme, il y a des ombres aussi parmi les Français qui occupent la colonie. Hein. Il y a tellement peu d'ouvriers de la religion, comme on disait à l'époque, une telle pénurie de ressources que chez nos ancêtres naissent différents défauts comme un amour excessif du lucre, comme on disait à l'époque aussi, un désir d'argent. Alors, ça entraîne ça, la vente des spiritueux à ceux qu'on appelait à l'époque les sauvages. Mais ce n'est pas avec mépris qu'on disait les sauvages, parce qu'en général, on peut dire que nos ancêtres avaient du respect pour les Amérindiens. On les appelait les sauvages, c'était le vocabulaire, hein. Un peu comme en Europe, on parlait des gens qui vivaient à l'extérieur de Rome ou de l'Empire de Rome exactement, on les appelait des barbares. Et le mot aujourd'hui est considéré comme terrible, mais c'était le vocabulaire. Donc, on vendait des spiritueux, c'est-à-dire de l'alcool, et ça crée ça, énormément de querelles avec Monseigneur de Laval. Monseigneur de Laval était un homme intègre, honnête. Et bien que Frontenac, à l'époque, voulait absolument que nos ancêtres vendent des alcools aux Amérindiens, parce qu'autrement, les Amérindiens seraient allés porter leur fourrure aux Anglais pour avoir de l'alcool. Monseigneur de Laval était prêt à sacrifier le trafic des fourrures, par respect pour les Amérindiens, tellement il était intègre et honnête. Il s'est grandement disputé avec Frontenac. C'était un homme sincère. Il a lancé l'excommunication contre les délinquants. Ça a été une querelle aussi avec le chef du pays à l'époque, qui a été le baron d'Avaucourt. En somme, il a été un homme vraiment un saint. Vous allez voir comment il a été un saint dans tout point de vue. Il a été témoin presque oculaire aussi des massacres des Iroquois, là, qui ont immolé 25 colons à Montréal, et puis 2 Sulpiciens, puis 14 à Trois-Rivières. La guerre était très, très difficile avec ce groupe d'Amérindiens. Mais, dit Marie de l'Incarnation, qui est une femme absolument phénoménale qui vivait à Québec, Marie de l'Incarnation, une Ursuline, et une grande mystique, l'une des plus grandes mystiques de l'histoire de l'Église. On la compare souvent à Sainte Thérèse d'Avila. Eh bien, elle dit, l'évêque François de Laval a pensé mourir de douleur en voyant les sauvages qui s'enivrent. On le voit sécher sur pied, c'est une expression de l'époque. Monseigneur de Laval est très sensible à la souffrance des Amérindiens qui sont ravagés par l'alcool. Et quand on y pense, le phénomène existe encore. On peut lire dans nos journaux de nos jours combien d'Inuits, combien de membres de communautés amérindiennes remarquables sont désespérés devant leurs enfants qui grandissent et qui prennent de l'alcool très jeunes aujourd'hui. C'est triste, le phénomène existe toujours.
Oui, et je me souviens quand j'étais professeur au collège de Saint-Boniface, il y a une vingtaine d'années, les professeurs avaient une maison de vacances à Kenora, sur le lac des Bois, puis on allait dans la ville de Kenora pour faire des achats, puis il y a beaucoup d'Indiens, là, et on envoyait, là, à partir du matin jusqu'au soir, des hommes, des femmes, des jeunes, couchés à terre, complètement ivres, morts.
Et on le voit aussi.
Désespérant.
Ça se voit aussi, quelques-uns ici à Montréal, au métro Guy, n'est-ce pas, où j'habite. On les voit couchés dans les escaliers, femmes ou hommes, complètement enivrés. Ils viennent probablement de la réserve de Kanawake, je crois. Et c'est triste, c'est vraiment triste, parce que ce sont des hommes et des femmes qui pourraient faire tellement pour leur peuple et pour nous aussi.
Alors, ça a été un des grands, grands problèmes des relations entre Monseigneur de Laval et le gouverneur.
Ah oui,
que ce problème de l'alcool et du trafic des fourrures.
Mais ce qu'il faut bien dire, il est allé en France pour se défendre en 1662. Il a fait un long voyage. Il est allé voir le roi qui l'a accueilli, qui lui a témoigné des marques d'estime, puis une extrême bonté. Louis XIV était très bon à son égard. Et après l'avoir entendu, il a fait supprimer la traite des spiritueux, c'est-à-dire le trafic de l'alcool qu'exerçaient nos ancêtres avec l'assentiment de Frontenac. Le roi a pris la part de Monseigneur, et puis il l'a assuré de l'envoi au Canada d'un fort contingent de soldats. Et c'est là que mon ancêtre, moi, est arrivé avec le régiment de Carignan en 1665, et c'est aussi dans ce régiment de Carignan que quantité de nos familles comptent leurs ancêtres qui sont arrivés comme soldats et qui sont restés ici, trouvant peut-être que ça valait mieux de vivre ici qu'en France. Alors, Monseigneur de Laval était allé voir le roi, qui l'a appuyé dans son projet de vraiment supprimer le trafic de l'alcool avec les Amérindiens. Et en 1663, l'année suivante, au mois de mai, il est comblé et il s'embarque pour Québec. Imaginez la traversée. Il est parti. Au mois de mai, il n'arrive que le 15 septembre. Ça a pris 4 mois dans des orages épouvantables sur l'océan. Ils ont failli mourir. Il amenait avec lui 2 prêtres. C'est incroyable quand on y pense, de traverser. Il a traversé de nombreuses fois comme ça pour défendre la colonie, pour défendre notre pays contre certains abus. Alors, pour ce qui était de l'organisation administrative, à compter de 1663, il y avait eu un tremblement de terre. Un très grand tremblement de terre au Québec. On ignore ça, hein, qu'en 1663, il y a eu ce tremblement de terre. Et la première secousse datait du 5 février. Lui, il est arrivé au mois de septembre. Alors, cette secousse-là, ça a été très long. Elle s'est répétée pendant 6 mois. Ça avait terrifié la population. Nos ancêtres étaient épouvantés. Mais il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais ça a arrêté le trafic de l'alcool avant même qu'il soit arrivé. Nos ancêtres ont cessé de faire le trafic tellement ils ont eu peur de Dieu, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, dit le père Lallemand, qui était un jésuite missionnaire, il se fait bien entendre. Il fait de grands remuements dans les consciences. Je trouve ça sympathique. Alors, petit à petit, nos ancêtres se sont remis à vendre de l'alcool. Alors là, le Monseigneur a renouvelé les sévérités contre les vendeurs d'eau de vie. Ça ne s'est pas allé jusqu'à l'excommunication, mais il y avait des sentences, des punitions, probablement.
Oui, je me souviens d'avoir lu l'histoire pour des travaux que je faisais en histoire, la vie du père Druyette, un jésuite. Et il y avait une manière de prêcher des retraites. Il allait dans les missions à Tadoussac, un peu partout. Il prêchait une retraite. Et puis, le but de la retraite, évidemment, c'était de ramener ces gens-là à Dieu, oui. Puis à la sobriété.
C'est ça.
Puis alors, le dernier jour de la retraite, là, on ramassait toutes les bouteilles d'alcool. On faisait un grand trou. On les enterrait profondément. Et puis, on dansait de joie.
Ah bon? Ah, c'est une bonne idée, au fond. Parce que c'est vraiment le ravage de l'alcool est souvent terrible dans bien des maisons. Mais en 1667, eh bien, Jean Talon, c'est de là que vient le nom de la rue Jean Talon à Montréal, n'est-ce pas, qui était intendant, il a obtenu du Conseil souverain l'arrêt qui autorisait la vente des spirituels aux indigènes. En 69, Mgr de Laval a donné ses encouragements à l'Institut de la Congrégation Notre-Dame, qui avait été fondé par Marguerite Bourgeois. Il a aussi, c'est lui qui a présidé au premier sanctuaire de la Bonne-Sainte-Anne, hein, qui est devenu Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis il est retourné en France presque 10 ans plus tard, en 71. Puis là, il est resté jusqu'en 75, parce qu'il avait beaucoup de travail à faire. Mais il était fatigué. Et puis, il trouvait qu'il y avait beaucoup de difficultés avec le pays ici. Et il est revenu au Québec au mois d'octobre 1675. Et en 76, eh bien, à Ville-Marie, là, il a accordé à la Congrégation Notre-Dame une approbation canonique. C'est de là que viennent nos sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Et puis, il a légué, d'ailleurs, à perpétuité au séminaire Saint-Sulpice, le vieux séminaire Saint-Sulpice qu'on peut voir à la place d'Armes, là, qui date de cette époque, est à côté de l'église Notre-Dame. Eh bien, il a légué à perpétuité au séminaire de Saint-Sulpice l'église paroissiale de Notre-Dame, l'église, la grande basilique Notre-Dame. Elle appartient, au fond, aux Sulpiciens de cet édifice qui est à droite. Et ça date de 1678. Hein. C'est tous des petits événements anodins, mais qui nous montrent que des monuments que l'on voit souvent quand on se promène à Montréal ou qu'on visite, eh bien, ça a des sources très lointaines chez Mgr de Laval. Et il prend pour la troisième fois la mer, encore en 1778. Il va devant le roi. Et puis, avec des mémoires si claires et si fortes que le roi puis son ministre ont compris l'étendue du mal que causait le commerce des boissons. Et Louis XIV a confié l'examen de tout cela au père de Lachaise. C'est le fameux père de Lachaise qui a donné son nom au cimetière de Lachaise à Paris, qui est très connu. Hein? Puis, il a confié cet examen-là aussi à l'archevêque de Paris. Puis alors, les deux, le père de Lachaise et l'archevêque de Paris, ont été d'avis que le roi devait défendre très expressément aux Français de porter des boissons enivrantes dans les bois et les habitations des sauvages, comme on disait toujours à l'époque. Et puis là, le 6 octobre 1779, là, une ordonnance royale a été promulguée et enregistrée au Conseil souverain. Mais toujours, M. de Frontenac a refusé de mettre ça en vigueur. C'était une querelle interminable. Hein. C'est là qu'on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'intégrité et le souci de l'argent ont des luttes continuellement dans le domaine des gouvernements, hein, chez les gouvernants, chez les politiciens. Et pour faire, finalement, il a fait un quatrième voyage, 84-88, il a été admis devant le roi, puis là, c'est là qu'il a présenté sa démission, mais il avait gagné le cœur de tous les peuples, hein, tous les peuples dans le sens que tous les Amérindiens, des différents peuples qui étaient proche du christianisme qui était devenu catholique, avait une grande admiration pour lui et évidemment aussi nos ancêtres français. Alors les plaintes ont éclaté à la cour contre les changements qui avaient été opérés par le grand vicaire, c'est-à-dire Mgr de Laval, et puis on tente de dissuader Mgr Laval de se faire sacrer évêque de Québec. Il s'y refuse, mais il est devenu finalement évêque de Québec. Il était évêque à Québec, mais il n'était pas évêque de Québec. Puis là, il est devenu évêque de Québec. Et ces dernières années ont été des années extraordinaires. Il y a eu le siège de Québec en 90. Les Anglais sont venus attaquer. Et puis, il a suspendu un tableau de la Sainte Famille devant la basilique de Québec, devant l'église de Québec, la cathédrale. Et les boulets des Anglais frappaient, mais n'ont jamais frappé cette image de la Sainte Famille qui est restée là comme un miracle.
Et là, Mgr de Laval est rendu pratiquement à la fin de sa grande carrière comme évêque.
C'est ça, il meurt le 6 mai 1708 à Québec parce qu'il a cherché à finir ses jours ici parmi les siens, même s'il n'était plus évêque de Québec. Et il a été pleuré vraiment par tout le monde. Hein. On peut même lire, sous la main du roi Louis XIV, hein, qui a écrit au pape dans ces termes-ci, « Ses vertus l'ont rendu partout recommandable. Nous avons des témoignages de la piété insigne de ce bon prêtre. Il serait difficile de commettre à un sujet plus digne le soin d'un si vaste pays. Ça, c'est quand Louis XIV propose au pape de nommer Monseigneur de Laval évêque de Nouvelle-France. La Nouvelle-France, il faut bien comprendre, à l'époque, ça s'étend jusqu'au golfe du Mexique. C'est immense. Et on voyait en lui un homme exceptionnel. C'est le père Ragueneau XIII, illustre un jésuite du temps de la colonie, qui disait « Toute la France le reconnaît comme un prélat d'une éminente vertu. On peut dire véritablement qu'il a un cœur selon le cœur de Dieu et qu'il est un modèle parfait des véritables évêques. » Un autre témoignage magnifique, c'est celui de Marie de l'Incarnation, qui en a porté de nombreux témoignages, mais celui-ci est superbe. « C'est un homme saint, écrit-elle, le père des pauvres et du public. Pour dire en un mot ce que je conçois de son mérite, il porte les marques et le caractère d'un saint. Il vit saintement et en apôtre. Sa vie est si exemplaire qu'il tient tout le pays en admiration. » Et à ses funérailles, c'était extraordinaire, hein? Il était en si grande réputation de sainteté que tout le monde voulait avoir quelque chose qui lui eût touché. Alors les malades s'en approchaient avec confiance, puis on l'invoqua dès lors comme un saint. Ça date du tout début de la colonie. Il a caché, dit-on, ses plus belles actions par amour pour la solitude et la vie cachée et abjecte. C'est pas lui qui cherchait à vivre dans un palais épiscopal. C'est Monseigneur de Saint-Vallier, qui lui aussi était de grande famille, mais d'une plus grande famille peut-être, qui lui a succédé, qui a cherché à avoir une meilleure maison pour y habiter. Mais Monseigneur de Laval était humble. Il y a un sulpicien qui écrit à l'époque: il nous reste la conviction intime et bien fondée que Monseigneur de Laval a été comparable au plus grand saint de l'Église, au plus grand saint que l'Église ait jamais placé sur les autels depuis les siècles apostoliques. Il n'y allait pas de même mort. Peut-être qu'il exagérait, mais je crois qu'en effet, en tous les cas, il était un homme extraordinaire. C'était une grande piété, un désir d'union avec Dieu, dit-on.
Alors, M. Beaugrand-Champagne, nous changeons de siècle et nous arrivons en 1994, en octobre. Et là, nous nous trouvons devant une mort absolument dramatique, celle du père Claude Simard, un père Sainte-Croix qui était au Rwanda, qui était assassiné, avec cinq scolastiques, c'est-à-dire des étudiants en théologie.
C'est-à-dire, les scolastiques ont été assassinés plus tôt, au mois de mai, avril, et lui a été assassiné au mois d'octobre. Et c'était un missionnaire québécois qui est né à Roberval, et qui est né en 1933 hein, à Roberval, au lac Saint-Jean. Il était le dernier de huit enfants, et il avait fait ses études au Collège de Saint-Laurent, donc c'est vraiment quelqu'un de chez nous. Et il a été, après son ordination en 1959, il est allé travailler à l'Oratoire Saint-Joseph quelque temps. Puis ensuite, il a été préfet de religion au Collège Sainte-Croix dans l'Est de Montréal. C'est aujourd'hui le cégep Maisonneuve. Donc, c'est bien quelqu'un de chez nous, du lac Saint-Jean, de Montréal, un homme d'ici. Mais dès son jeune âge, il écrit « J'ai toujours eu à cœur les problèmes comme celui de la misère dans le monde. » Déjà, il rêve de devenir ermite et missionnaire, ce Québécois. En somme, il a un peu le même esprit que Monseigneur de Laval. Et c'est surprenant de voir que ce qu'a déposé Monseigneur de Laval dans notre Église au début de la colonie, au XVIIe siècle, rejaillit en fin du XXe siècle dans le cœur de cet homme, Claude Simard, prêtre de Sainte-Croix, de la congrégation Sainte-Croix. Il voulait devenir donc ermite et missionnaire. Et puis, il a rencontré, fortuitement, un évêque de Boutaré, au Rwanda. Et ça l'a amené à demander à partir pour l'Afrique. Et il est arrivé au Rwanda en 1965, il y a donc 30 ans, en septembre. Et puis, il a écrit le 12 novembre 1965, « Mon désir profond et enraciné en mon cœur, c'est de répondre jusqu'au bout, fidèlement, aux exigences de sainteté que me propose Jésus-Christ qui a allumé ce grand feu en moi. » On se dira, ben oui, il a écrit ça, so what? Il faut voir sa vie. C'est une vie merveilleuse que la vie de ce prêtre de Sainte-Croix, qui est presque originaire de Montréal, de Ville-Marie, même s'il est né à Roberval. Il a mené une vie d'ermite missionnaire à Kiragambogo, étrange nom, où il est resté 20 ans. Il exerçait une prière contemplative presque constante, l'étude, le travail manuel, mais aussi il avait des contacts fréquents avec les gens, quelques heures de ministère sacerdotal. C'étaient les principaux aspects de sa vie cachée, disait-il. Et il ajoute, dernièrement, depuis 4 mois environ, après réflexion et prière, j'ai décidé, face à l'immense sous-développement, de prendre certaines initiatives. En somme, il s'arrache petit à petit à son esprit d'ermite. Il dit, c'est ainsi que nous avons aménagé une route et construit un pont avec l'aide financière de mes beaux-frères. Et c'est souvent ce qui arrive chez nos missionnaires, hein. Ce sont les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs. Ils viennent de familles nombreuses. Lui, ils étaient 8 enfants. Et ces gens-là se montrent très généreux à l'égard du missionnaire québécois qui travaille au loin. Il écrit en 69, « Mes moments les plus heureux sont ceux où, dans la prière contemplative, je m'efforce d'être attentif et d'accueillir le bien-aimé au fond de mon être. » On lirait ces choses-là d'un étranger qui a vécu en Inde et on serait dans l'émerveillement. On a quelqu'un d'ici qui a vécu ça en 69 et jusqu'en 94 quand il a été assassiné. Il dit « Oui, j'ai offert ma vie à Dieu pour que nous renaissions tous à une vie nouvelle, c'est-à-dire à une authentique sainteté. » Et en 87, le père Simard devient responsable d'une paroisse. Il collabore au noviciat ouvert par les frères de Sainte-Croix. Et puis, malgré les invitations à quitter en 94 le Rwanda lors des massacres, il décide de rester. Puis c'est dans la nuit du 17 au 18 octobre que des gens ont vu une voiture arriver à sa maison vers 22 heures. Et puis, les soldats de l'ONU ont découvert son corps. Et puis, ils ont communiqué la nouvelle. Puis, il a été inhumé dans sa paroisse de Ruyenzi. Le 19 octobre, en présence des prêtres de la région, puis Radio Vatican l'a annoncé, les agences FIDES, etc. Ça fait le tour du monde.
Alors, le père Claude Simard, malheureusement assassiné dans des circonstances difficiles à comprendre.
Elles sont compréhensibles dans un sens, c'est qu'il ne se gênait pas pour dire ce qu'il avait vu. Il avait été témoin de choses épouvantables. Il écrit à un moment donné, « Un papa tué avec ses grands garçons, une mère massacrée avec ses enfants. » Les deux parents tués, des jeunes qui avaient réussi à se sauver, des voisins et voisines, des amis tués dans leur maison sans motif, d'autres partis dans la nuit. Il dit, c'est en accueillant ces rescapés de la mort que j'ai saisi petit à petit le drame intérieur que vivaient toutes ces personnes qui avaient dû tout laisser derrière elles pour sauver leur vie. J'ai réalisé que dans certaines situations, nous découvrons que les biens matériels et l'argent, si importants soient-ils, ne sont rien à comparer à ce grand cadeau de Dieu, la vie. Alors donc, il s'occupait des scolastiques et plusieurs de ces scolastiques admirables. Il y a des photos dans une petite revue que j'ai ici en main, Orient, qui est publiée par les Pères de Sainte-Croix, des photos des scolastiques africains, des têtes merveilleuses, des jeunes gens superbes qui étaient prêts à être ordonnés.
C'est la bonne humeur de ces gens-là. Moi, j'en Exactement. Connais des Rwandais. Des gens de bonne humeur, sympathiques, ouverts. Puis on comprend pas un pays comme ça peut s'enfoncer dans la violence.
Mais oui, les Tutsis et les Hutus sont deux peuples admirables. On ne comprend pas qu'ils aient pu se massacrer comme ça. Et alors, ils ont perdu, n'est-ce pas, là-bas, une centaine de prêtres, écrit Claude Simard, le père Claude Simard. Nous avons perdu dans l'ensemble du Rwanda, des religieux, des religieuses, des professeurs, des médecins, des professeurs d'université, 3 évêques en pleine activité. Et c'est un peuple qui est une pauvre victime, dit-il, de politiciens attachés au pouvoir, à l'argent et à leurs privilèges depuis 20 ans de règne, sans partage. Il dit, c'est là la cause profonde de la guerre. Il dit, ça a suscité des milliers d'orphelins. Et il ajoute, beaucoup de Hutus ont protégé et caché des Tutsis pour leur sauver la vie. Ne l'oublions pas, ce n'est pas la masse des Hutus qui a participé au génocide. Il dit aussi dans cette lettre, qui est écrite quelques jours avant sa mort, « Quant à notre Église et ses pasteurs, elle devra adopter une nouvelle pastorale, voilà, et un style de vie qui seront marqués par la modestie, l'humilité et plus d'intériorité. » Il signe ses lettres suivant « Frère en Jésus ». Ces dernières lettres sont très, très belles. Il écrit aussi, c'est dans la prière que le Seigneur m'a soutenu fidèlement. Puis il nous dit, il nous faut énormément de courage, de patience et de discernement et de foi, car tout ce qui s'est passé est un choc terrible pour notre Église du Rwanda, dont nous étions trop fiers. Et lors de ses funérailles, le jeudi 27 octobre, à l'oratoire Saint-Joseph, en 94, l'an dernier, le père Robert Choquette, qui est supérieur de la province canadienne des Pères de Sainte-Croix, a accueilli les gens en disant « Les témoignages les plus émouvants viennent de Rwandais, qui sont actuellement au Canada, et qui ont vu Claude à l'œuvre. » Et il ajoute « Jésus vivant, lumière du monde, qui est représenté par le cierge pascal allumé, préside cette Eucharistie et donne un sens à cette rencontre. Tous ensemble, alors, célébrons le passage de cette vie terrestre à la vie en Dieu de ces six confrères de Sainte-Croix, disparus dans des circonstances tragiques. » Et dans son homélie, il dit « Plusieurs témoins disent avoir senti les forces du mal déchaînées. » Et le père Choquette ajoute « Un missionnaire disait « Il n'y a plus d'enfer, car les démons sont tous rendus au Rwanda et ils y ont apporté l'enfer avec eux. » Je trouve ça fort, mais c'est ce qu'on a vu, nous, à la télévision, n'est-ce pas? Nous étions épouvantés de ce que nous avons vu. Or, c'est rien, paraît-il, d'avoir été là, sur place, comme Claude Simard. En somme, aujourd'hui encore, ajoute le père Choquette, « Caïn tue Abel. » Et en parlant du père Claude Simard, il dit, le père Claude Simard désirait aller là-bas pour mener la vie contemplative, être un homme de prière parmi le peuple rwandais, ce qu'il fit. Mais les besoins des gens ont été pour lui une invitation pressante à une vie active. Et le père Claude écrivait « J'ai maintenant du sang rwandais dans les veines. Je veux vivre ici, travailler ici et mourir ici. J'appartiens à ces pauvres gens de ma paroisse que j'aime plus que tout au monde. » Et il y a les dernières paroles du père Claude. « Malgré les horreurs de la guerre et les massacres, je reste toujours attaché à ce peuple qui a tant souffert dans son cœur et dans son corps, et je veux apporter ma modeste collaboration à construire un nouveau Rwanda qui sera édifié par un peuple réconcilié avec lui-même. » Et sa mort, en somme, nous révèle tout ce qu'il y avait de noble et de grand et de généreux en lui. Au-delà de l'horreur, la guerre a été source de lumière en nous révélant tout ce qu'il y avait de noble et de grand et de généreux dans le peuple rwandais lui-même. Et il y a un Rwandais, M. Fulgence Misago, qui a pris la parole aux funérailles et qui a dit des choses absolument superbes. Et je termine en disant quelques-unes de ses paroles. Le père Claude n'a jamais accepté de passer sous silence tout acte de violence d'où qu'il vienne. C'est pour ça qu'il a été tué. C'était un homme intègre dans n'importe quelle situation. Il était serviteur de Dieu, corps et âme. Il se demandait ce que Jésus aurait fait à sa place. Le père Claude n'hésitait pas quand il fallait défendre les droits des humains et surtout des réfugiés. Et il avait terminé son long partage magnifique par ces paroles superbes. C'était un homme sensé. Il pratiquait réellement la vertu. Il avait la sagesse même de Dieu qui nous l'avait envoyé. C'est pour lui qu'il n'a pas voulu ni céder, ni reculer, ni abandonner son poste. Le père Claude Simard était persuadé que seul Dieu avait le juste et droit chemin vers la vie éternelle. Les ennemis de la paix l'ont enchaîné, les ennemis de la liberté l'ont frappé et les égoïstes l'ont tué. Le père Claude Simard est un martyr.
Et alors, pour terminer notre itinéraire, il y a quelques éléments que je vais vous communiquer. Je vous ai dit que Radio Ville-Marie se battrait un peu pour l'alphabétisation et voici que le YMCA ouvre un nouveau centre de ressources en alphabétisation et en langue. Avec 170 tutrices bénévoles et 108 élèves jumelés à une tutrice, 63 équipes d'alphabétisation et de langue, et c'est devenu maintenant, le YMCA, un lieu important au Québec à ce point de vue-là. Il y a un centre de ressourcement en alphabétisation et en langue qui offre des manuels d'apprentissage, des ouvrages de référence et lieux de rencontre pour élèves et tutrices. Et c'est la première étape d'un projet global, Parole de femmes appelées à se développer. Des femmes de tous âges qui ont un niveau de lecture inférieur à celui du secondaire 3 peuvent améliorer leur lecture et leur écriture en français et en anglais. L'enseignement gratuit est donné sur une base individuelle en jumelant une tutrice bénévole avec un élève. Pour les immigrantes qui n'ont pas accès à la formation subventionnée par le gouvernement, ou ne pouvant suivre des cours réguliers, le YMCA offre des programmes de français et d'anglais langue seconde. Nous considérons que nos services d'alphabétisation et de langue sont essentiels, car une Québécoise sur quatre est actuellement handicapée en ne sachant ni lire, ni écrire, ni parler l'une ou l'autre des deux langues, dit Carole Fitzwilliam. Et j'espère que ce centre réussira cette opération extrêmement importante. Un autre groupe que nous voudrions encourager, c'est la maison La Ressource, qui ouvre ses portes sur la vie aux jeunes femmes en difficulté. Denise Pelletier, qui les aide beaucoup, dit elle-même: j'ai vécu une adolescence plutôt tumultueuse. C'est souvent avec par l'aide et l'écoute de certaines personnes que j'ai pu aller de l'avant. Si les filles de La Ressource m'ont choisi comme porte-parole, c'est sûrement qu'elles se sont reconnues dans mes chansons. J'y parle de manque d'amour, un sujet plutôt tabou. Quand on entre ici, on sent le climat de famille, un toit, du support, un milieu de vie chaleureux. C'est bon et suffisant pour repartir du bon pied. Souvent des jeunes de 18 à 30 ans, sans travail, sans argent, sans abri. Elles ont besoin de notre aide. Avant de franchir nos portes, elles ont connu violence, rejet, toxicomanie, tentative de suicide, problèmes familiaux, de santé mentale. Quand elles arrivent chez nous, elles sont en crise, le moral à zéro, mais veulent s'en sortir. Et Carole Vallas, qui est la directrice générale de La Ressource, nous demande un peu d'aide. Et Henri-Paul Rousseau, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, a accepté d'être le président de leur campagne. Et c'est évident que depuis sa fondation, cette maison-là dépend presque uniquement de la générosité des donateurs. Et puis, évidemment, ça a été, j'ai de l'Agence France-Presse un communiqué, nous allons terminer sur un essai de réconciliation entre les musulmans et les chrétiens. La Journée mondiale de la liberté de la presse, imaginez, 103 journalistes ont été tués en 1994. Et 130 autres sont jetés en prison en raison de leur profession. Et l'Association française Reporters sans frontières déplore ce phénomène. Il faut absolument que les journalistes restent libres. Pour terminer notre émission, Raymond Beaugrand-Champagne va faire un rapprochement assez intéressant entre une prière qui ressemble au Pater et le Notre Père des chrétiens.
Oui, dans un très beau livre, « Jésus vu par un musulman », paru chez Stock en 1994, un écrivain du Mali, Amadou Ampateba, qui est mort à 91 ans en 1991, qui était historien aussi, ethnologue, poète. C'était l'une des plus hautes figures de la sagesse et de la culture africaine, musulman, donc. Il a fait, dans son livre, un rapport, à un moment donné, entre le pater et la fatia, le pater étant la principale prière des chrétiens, et la fatia, qui est la principale prière des musulmans. Elle est au tout début du Coran, c'est la première sourate. Et il fait, donc, le rapport suivant, à savoir que chacune de ces prières est divisée, en somme, en 7 versets. Et voici donc les 7 versets côte à côte. Le premier venu du Pater, selon M. Ampateba, dans son livre, et il fait suivre ça du texte du Coran. Voici donc: Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Et dans le Coran: Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Que votre règne arrive, et dans le Coran, le tout miséricorde, le miséricordieux. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le Coran, roi du jour du jugement. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et dans le Coran, ô toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans le Coran, guide-nous dans la voie droite. Ne nous induisez pas en tentation. Dans le Coran, la voix de ceux sur qui tu répands ta grâce. Et enfin, et délivrez-nous du mal. Dans le Coran, non pas la voix de ceux sur qui est ton courroux, ni de ceux qui s'égarent. Amen. Amine.